Alors donc Jonathan et moi, donc qui sommes de l'association AIDE, qui est une association de lutte contre le VIH/SIDA, les hépatites et les IST, allons vous présenter ce nouveau dispositif donc qui s'appelle CARUD. Comment? C'est ça, PowerPoint à gauche. Voilà, donc on va vous présenter ce que signifie un peu ce centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. On sera dans une double présentation. Donc moi, je suis coordinateur du CARUD et donc j'ai un œil plutôt, je dirais, formel et théorique, ce qui ne m'empêche pas d'aller sur le terrain. Et Jonathan a la connaissance du terrain puisqu'il est régulièrement sur les permanences. Donc on va se compléter dans la co-animation. Alors, les CARUD naissent d'un constat épidémiologique. Alors, les CARUD ont été, on le verra un peu au fur et à mesure, ont été créés à partir d'une circulaire de janvier 2006. Ce qui ne signifie pas qu'il a fallu attendre 2006 pour mettre en place des dispositifs de réduction des risques, mais en tout cas, à partir de 2006, cette circulaire a permis d'institutionnaliser différents dispositifs de programmes d'échange de seringues ou autres. Donc, l'idée de ces CARUD, c'est de répondre à un problème épidémiologique lié à une prévalence importante des hépatites, principalement, et du VIH, mais principalement des hépatites, chez les consommateurs de produits psychoactifs. Donc, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, il y a 367 000 porteurs VHC, donc hépatite C en France, et 280 000 porteurs hépatite B en France. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir qu'au niveau des hépatites chez les UD, donc usagers de drogue, on a une prévalence qui est de l'ordre de 60% au niveau de l'hépatite C, contre 11% par rapport au VIH. Également au niveau des. On voit sur les données donc, qui sont issues de l'Institut national de veille sanitaire et de l'enquête Coquelicot, on voit que pour près de 27% des consommateurs de produits psychoactifs, 27% se considéraient être négatifs, séronégatifs à l'hépatite C, et en fait l'étaient. Et en fait étaient positifs. Ce qui nous amènera un peu après à réfléchir sur les dispositifs de dépistage qui peuvent être proposés aux consommateurs de produits. Sur le dernier item, au niveau du partage de matériel, point sur lequel on reviendra au niveau des missions du CARUD, l'enquête Coquelicot nous montre que près de 38% des usagers de drogue déclarent partager du petit matériel. Lequel petit matériel, faut entendre par là le matériel lié à l'injection, coton, cuillère et autres, est vecteur de transmission des hépatites, en tout cas de l'hépatite C principalement. Concernant cette population. Dans les chiffres importants à retenir également, 13% des usagers de drogue déclarent partager leur seringue. Donc c'est autant d'éléments qui nous amènent à travailler donc, depuis 2006 avec l'avènement des CARUD, mais déjà avant, dès les années 80, il y avait des dispositifs pour diffuser du matériel stérile à usage unique. Justement, de mettre en place des dispositifs pour éviter la passation de matériel souillé, et donc les risques de contamination liés à ce partage de matériel. Alors, la réduction des risques, une définition, je dirais, officielle, donc, qui est liée au décret du 14 avril 2005. Dans un premier temps, prévenir les infections liées à l'utilisation du matériel d'injection. Donc ça corrobore les données, les pourcentages qu'on a vus précédemment sur le partage du petit matériel et des aiguilles, notamment des seringues. Prévenir les intoxications aiguës résultant de la consommation de stupéfiants. Prendre en charge les troubles psy associés à la consommation, ce que Monsieur Serra expliquait précédemment. Orienter, accompagner vers les services de soins généraux et spécialisés. Donc pour ce qui est de la vienne, on peut penser au CSST, le tourniquet et autres structures de ce type. Et enfin, améliorer l'état de santé physique et psychique des consommateurs de produits psychoactifs. Donc là, pour le moment, on reste dans des grandes définitions, je dirais théoriques officielles, et après, on va voir un peu ce que sur le terrain, et notamment sur la Vienne, ce que ça donne. Donc, à partir de l'expérience de Head depuis les années 80 dans la réduction des risques liés à la consommation de produits psychoactifs et liés à la politique de Head de façon générale, on s'est donné un cadre d'action avec une définition de la RDR, donc de la réduction des risques. D'une part, on privilégie l'information, la pédagogie, le soutien et le soin des personnes consommatrices de produits psychoactifs, plutôt que la pénalisation liée à l'usage. On s'attache davantage aux produits consommés plutôt qu'aux modes de consommation. Head étant une association de santé communautaire, comme on le réexpliquera tout à l'heure, et on verra ce que ça signifie, l'idée étant de travailler à l'autonomie des consommateurs de produits de façon à ce qu'ils aient les compétences et les connaissances pour adopter des stratégies de réduction des risques liées à leur consommation de produits. Donc ça passe par l'information sur les risques liés aux produits en tant que tels, sur l'information liée à la consommation, à la pratique de consommation et à l'explication quant aux outils de réduction des risques qui peut exister, que l'on dispense auprès des personnes. Un autre point étant de travailler autour de l'expression individuelle et collective des personnes. L'idée d'échange collectif, c'est de partir de l'expertise et de l'expérience des consommateurs de produits qu'ils ont acquis au fur et à mesure, de par leur histoire, de les amener à échanger autour de leurs pratiques de façon à ce que on s'inscrit dans une dynamique d'éducation par les pairs, de façon à ce que un jeune, par exemple un jeune injecteur, soit accompagné par un injecteur qui a davantage de pratiques, de façon à lui transmettre les pratiques qui éviteront la contamination liée aux hépatites ou au VIH. Et enfin, la réduction des risques constitue une démarche de soins, puisque l'idée étant que le consommateur de produits soit acteur de sa santé. Et pour cela, on travaille autour de l'information, de la pédagogie. On l'incite à se mobiliser dans les démarches de prévention et de réduction des risques. Et de fait, on travaille aussi en partenariat étroit avec toutes les structures de soins généralistes ou spécialisées. Alors ça, c'est sur les grandes lignes. Bon, le PowerPoint qui suit explique tout simplement le nombre de CARUD qui sont pilotés par Head sur le territoire et les 6 CARUD qui sont pilotés sur la région sud-ouest. Les CARUD ont une vocation départementale. Les CARUD sont des structures médico-sociales, donc avec un cahier des charges bien spécifique. Au niveau de la Vienne, donc nous avons eu l'arrêté préfectoral en janvier 2008, ce qui nous a permis de débuter nos missions dès janvier. On est parti, donc ayant une vocation départementale, nous avons commencé à travailler principalement sur la ville de Poitiers, là où il y a un bassin de consommation et de consommateurs, avec une expérimentation autour de Châtellerault. Le profil de population étant un peu différent entre Poitiers et Châtellerault, à ce jour, on revient un peu sur Poitiers parce que sur Châtellerault, on a eu quelques difficultés à ce que ça prenne, à ce que les consommateurs fréquentent notre dispositif. Donc là, pour le moment, on se focalise sur Poitiers, la communauté d'agglomération de Poitiers, et on envisage de se développer sur Chauvigny, Montmorillon et Loudun, puisqu'il y a des données liées à la diffusion de matériel stérile qui nous permettent de voir que manifestement il y a une consommation et que très probablement il y a un intérêt et une pertinence à ce que l'on soit présent. Jonathan, si tu veux ajouter des choses sur
Là, pour le coup, je dirais que sur Poitiers, on fait actuellement 2 permanences par semaine, en sachant que c'est donc 2 permanences, une le lundi de 18h à 20h et une de 20h à 22h le jeudi. On a une file active qui prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'on est sur 63 personnes différentes qui fréquentent la structure depuis sur l'année 2008, avec une montée en croissance pour 2009. C'est vrai que sur le département, il y a potentiellement un intérêt à mettre en place des permanences sur Loudun, Montbrillon et Chauvigny, puisqu'on sait qu'il y a des consommateurs. L'idée pour nous étant de mettre en place des personnes qu'on appelle personnes relais, puisque l'expérience nous a montré que sur Châtellerault, ça a été la difficulté. En ayant travaillé avec l'ensemble des structures médico-sociales et sociales de la ville, on n'a pas réussi à toucher et à sensibiliser les consommateurs eux-mêmes. Donc c'est vrai que pour nous, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un partenariat fort avec les structures médico-sociales, mais aussi de connaître les consommateurs et de pouvoir aussi les amener à toucher leurs connaissances et à les amener à venir sur le dispositif. Pour nous, l'idée de travailler avec des personnes relais est vraiment importante. Et c'est aussi un des aspects du travail de santé communautaire qu'on fait à AIDE.
Alors, ouais, donc pour préciser un peu ce travail d'acteur relais, très concrètement, donc je suis également sur le département de Charente, où il y a également un dispositif CARUD. Ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a une antenne fixe et mobile sur Angoulême et des antennes mobiles sur Cognac et Jarnac. Sur Cognac, on a pu sensibiliser un consommateur en le formant, en lui expliquant précisément l'intégralité du matériel, ce que signifie la réduction des risques, en l'amenant à travailler sur le cadre éthique et la politique de aide. Et investi dans ce travail-là, il a fait un gros travail de repérage sur Cognac pour savoir quels étaient les squats où il y avait des consommateurs qui ne fréquentaient pas le CARUD. Il a fait un travail d'information auprès des officines qui elles-mêmes diffusaient des kits, ce qui nous a permis très rapidement d'accroître la file active de Cognac et donc de toucher des personnes qui naturellement ne seraient pas venues dans un dispositif pour diverses raisons, parce que ce sont des personnes qui sont en rupture, qui vivent de façon assez marginale, plutôt renfermées dans des squats. Et du coup, cette personne nous a permis d'aller au-devant de consommateurs qui naturellement ne seraient pas venus. Donc c'est pour le coup plutôt intéressant. Et donc on envisage de reproduire ce système-là sur Poitiers, ce qui commence à se faire sur Poitiers. Bon, comme le disait Jonathan, sur Châtellerault, pour le moment, ça n'a pas pris, mais on a espoir.
Disons que moi je finirai sur les personnes relais en disant que l'intérêt de ces personnes-là, c'est qu'elles nous permettent de toucher des personnes qui ne fréquentent pas les structures sociales. On le voit entre autres sur le tourniquet, puisqu'ils ont aussi donc des locaux sur Châtellerault. On travaille avec des personnes qui sont en mésusage et qui fréquentent déjà les structures de soins. Après, il y a aussi toute la population toxicomane ou consommatrice qui n'est pas encore dans la démarche de soins et qui n'a pas accès à l'information concernant le dispositif et l'existence de dispositif. Donc c'est aussi l'intérêt de travailler avec ces personnes relais pour qu'elles puissent informer ces personnes qui ne sont pas touchées par l'information.
Alors donc, très concrètement, cette circulaire de janvier 2006 qui donne un cadre et un cahier des charges au CARUD travaille autour de 6 missions fondamentales et une facultative. La première de ces missions est liée à l'accueil des consommateurs. Donc, aller au-devant des consommateurs, comme le disait Jonathan, ça signifie avoir des permanences en soirée, par exemple, donc le lundi soir et le jeudi soir, sur des créneaux qui sont un peu différents des créneaux, je dirais, institutionnels, puisque pour la plupart des personnes qui fréquentent la structure, elles sont en rupture avec ces institutions. Donc, on essaie de se caler sur un rythme de vie qui est... je généralise un peu, mais qui est proche du leur en tout cas. On travaille autour de permanences mobiles, c'est-à-dire qu'il y a un camping-car qui est aménagé, dans lequel on peut accueillir les personnes, diffuser du matériel, récupérer du matériel usagé. Et il y a un travail de rue, en squat et en milieu festif, qui est initié par nos équipes. Si tu veux ajouter des choses.
C'est pour nous, l'intérêt du camping-car, c'est aussi d'avoir un lieu d'accueil, puisque on fait de la diffusion de matériel, mais on est aussi là pour répondre à d'autres missions qu'on va développer plus tard. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir un lieu où on peut mener des entretiens, accueillir les personnes de façon individuelle, pouvoir aller plus loin et aussi travailler sur toute l'orientation qu'on va faire vers le soin, vers le droit commun, et de pouvoir informer les gens sur les structures qui existent et pouvoir les orienter. Ensuite, sur le travail de rue, je dirais que tout bêtement, c'est un travail d'information, de rencontre aussi, puisqu'on va aussi au-devant des nouveaux arrivants sur la ville. On sait qu'on s'adresse en partie à une population qui est marginale et qui bouge beaucoup sur l'ensemble des départements du Sud-Ouest. On sait aussi aller au-devant de ces personnes-là qui n'ont pas forcément l'information. C'est donc pouvoir échanger avec eux parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de venir aux permanences, et pouvoir faire aussi de l'orientation et de l'accompagnement physique en urgence quand besoin est.
Donc il y a une mission liée aux soins, donc proposée, orientée vers l'accès aux soins de santé de premier niveau et l'accès à l'hygiène. Donc l'accès à l'hygiène, c'est pouvoir proposer douches sanitaires et autres. Orienté, accompagné vers l'accès aux soins, c'est ce qu'expliquait Jonathan. On a cette possibilité dans le cadre du CARU de pouvoir dispenser des soins de premier niveau, sous condition qu'il y a du personnel qualifié pour, donc infirmier ou médecin. Sur la Charente, nous avons un partenariat avec la permanence d'accès aux soins de Girac, qui nous permet d'avoir une mise à disposition d'un infirmier. Si les moyens financiers nous le permettent sur la Vienne, on envisage bien de faire pareil, d'avoir du personnel médical. Ça permet une fois de plus de répondre à une certaine urgence liée à une bobologie, liée à des abcès ou autre, que les consommateurs de produits n'iraient pas nécessairement d'eux-mêmes aux urgences, et donc d'avoir quelqu'un sur place, in situ, capable de répondre à l'ici et maintenant, ça permet quand même de pallier un peu ces difficultés-là.
Si je peux me permettre, je dirais qu'en plus, dans certaines situations, le discours d'une personne issue du milieu médical a un impact qui sera différent du discours d'un éducateur, où l'importance du soin peut avoir un impact plus grand quand c'est un discours tenu par un médecin ou par un infirmier, en sachant qu'en plus, ça peut aussi... dans certains cas, des usagers ont beaucoup de difficultés à aller aux urgences ou à aller voir un médecin pour des raisons qui sont liées à des représentations qui vont dans les deux sens, sur la façon dont un toxicomane peut être accueilli aux urgences, mais aussi sur eux, les représentations qu'il peut avoir des médecins urgentistes. Donc c'est vrai qu'avoir du personnel infirmier ou médical sur une permanence, ça permet aussi de dédramatiser les choses et de casser beaucoup de représentations.
C'est exactement ce qu'on voit sur Angoulême, où du coup, il y a un lien qui se fait qui est complètement différent entre maintenant les consommateurs et les infirmiers, puisque le personnel médical est vu dans un contexte et un cadre différent, et au final ça permet de déconstruire bien des préjugés, de faciliter les orientations physiques vers la PASS ou vers l'hôpital de Girac. Donc il y a une mission liée à l'accès aux droits communs, aux minima sociaux, consistant à informer ou accompagner les personnes.
Alors, pour le coup, sur la ville de Poitiers, il y a déjà des structures existantes, donc c'est aussi l'intérêt du partenariat. Sur Poitiers, on travaille beaucoup avec le relais Georges Charbonnier pour ce qui est de cet aspect-là de nos missions, puisque on va éviter aussi de faire des doublons. Alors c'est vrai que sur d'autres villes du département, on met en place des partenariats avec les assistants sociaux de secteur et d'autres structures. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir travailler en partenariat, en sachant qu'il y a des personnes aussi qui ne veulent pas mettre les pieds dans des structures d'accueil de jour parce qu'ils ne considèrent pas relever de ce type de structure. Dans ce cas-là, on peut mettre en place aussi des accompagnements sociaux, ce qui fait partie de nos missions, donc ouvrir un droit RMI, renouveler un droit CMU, et ainsi de suite.
De façon à donner un maximum de cohérence à nos actions, sachant qu'il y a quand même différents acteurs de réduction des risques sur le département. Jonathan a parlé du relais Georges Charbonnier, mais il y a également le collectif de réduction des risques Equinox, qui intervient en milieu festif. Il y a également le réseau Toxicomanie 86 qui pilote le programme d'échange de seringues sur le département. Donc depuis 2008, nous avons créé un collectif départemental de réduction des risques qui nous permet de nous réunir une fois tous les 2 à 3 mois de façon à apporter une pertinence et une cohérence dans nos actions quant à la prise en charge globale des personnes et à la mise en place d'actions de réduction des risques sur des événements en milieu festif ou autre. Donc cette idée de partenariat, on y tient parce que chacun a son expertise, ses compétences et son savoir-faire professionnel. Et ça nous permet d'avoir tout simplement une approche globale des personnes en étant dans le secret partagé, mais ça permet de travailler en étroite collaboration avec le CSST du Tourniquet, le Relais et les autres structures. Donc la mission contact, donc, comme l'explique le PowerPoint, l'idée étant d'aller au-devant des personnes, d'où l'utilisation d'un camping-car et d'un accueil mobile, d'identifier les personnes qui sont dans le besoin, d'où le travail de rue, pour toutes les personnes qui ne fréquentent pas les structures de façon générale ou le CARUD. J'ai pas grand-chose à rajouter sur cette mission. C'est une mission qui recoupe un peu celle qu'on a vue précédemment. Une mission qui est assez importante et qui va nous permettre peut-être de détailler un peu plus ce que l'on diffuse en termes de matériel de réduction des risques. Donc il y a une diffusion de matériel stérile à usage unique, une récupération du matériel souillé et il y a une réduite diffusion du matériel de prévention et de RDR. On rentre un peu dans le détail.
Dans le matériel qu'on peut diffuser, ce qui va vous parler, c'est peut-être le Steribox qui est disponible en pharmacie. Donc on a des kits qui sont équivalents, qui sont les kits plus, qui contiennent le kit plus qui est l'équivalent du Steribox qu'on trouve en pharmacie, donc qui contient deux seringues à insuline, ce qu'on appelle des cups qui viennent remplacer en fait les cuillères qu'on peut voir dans les films qui servent à diluer le produit avant l'injection, des fioles d'eau stériles pour diluer le produit, un préservatif et une lingette d'alcool pour désinfecter le point d'injection. Après il y a bien sûr la diffusion de matériel, donc tout ce petit matériel peut être détaillé en fonction des consommations et des modes, des pratiques de consommation, on va dire. Après, on va aussi s'adresser aux personnes qui pratiquent le SNIF. Il n'y a pas que des injecteurs dans les consommateurs de produits. Donc, on va diffuser du matériel de réduction des risques qui s'appelle roule-tapaille, qui sont tout bêtement des carnets qui ont à peu près la même allure qu'un carnet de post-it, qui permettent de réduire les modes de contamination VIH et VHC, principalement VHC, puisqu'on sait que par le SNIF, il y a aussi des modes de contamination VHC.
Ce qu'il faut rappeler, on a vu dans les pourcentages sur les débuts de PowerPoint, au niveau du VIH, les chiffres nous montrent qu'il y a de moins en moins de contamination VIH au niveau des consommateurs de produits. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble, il y a de moins en moins de partage de seringues. Par contre, ce qui est important, c'est au niveau du partage du petit matériel. Et c'est là où on a toutes les difficultés, et c'est là où la prévalence à l'hépatite C est assez importante. Le liquide contaminant au niveau de l'hépatite C étant le sang, il y a présence de sang sur la cuillère, appelée Stericup, sur les cotons qui peuvent se partager, qui peuvent même parfois se revendre s'il reste encore un produit des résidus de produits de qualité, ça s'est déjà vu que ça se revendait. Partage de fioles d'eau qui permettent la préparation du produit. Et donc, c'est dans tous ces petits éléments où on peut retrouver du sang et donc des souches d'hépatite C qui sont susceptibles de contaminer son partenaire. D'où le travail de diffusion au niveau du matériel. Également pour les personnes qui consomment des produits par inhalation, les produits étant agressifs, provoquent des micro-lésions au niveau de la muqueuse nasale. Et donc, ce sont des portes d'entrée pour l'hépatite C, et d'où les risques de contamination avec le partage de paille pour ce type de consommateur.
Ouais, j'aurais tendance à dire qu'en plus de la diffusion du matériel, l'intérêt que va avoir le CARUD, c'est aussi la présentation de matériel qui n'est pas connu par le consommateur. Donc, c'est pouvoir aussi diffuser l'information par rapport aux risques de contamination VHC qui ne sont pas toujours connus par les consommateurs, sur le prêt de la cuillère, sur le partage du coton et ainsi de suite. Mais c'est aussi pouvoir leur présenter du matériel, parce que certains ne venaient à la base que pour prendre des seringues. Et au fur et à mesure, on a découvert des stéricups, donc des cups stériles, des stérifiltres qui sont des filtres qui permettent de limiter les poussières et les risques infectieux liés à l'injection. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de les amener à prendre de moins en moins de risques et à être vraiment dans la réduction des risques. Après, j'aurais tendance à dire que dans l'idéal, quelqu'un qui arrive en tant qu'injecteur d'héroïne, ce serait de le faire passer à différents stades, qui serait d'arrêter l'injection pour passer au sniff, pour passer peut-être au fait de le fumer, puisqu'il n'y aura plus de risque de contamination d'une personne à une autre, et de l'amener tout doucement à être orienté sur un CSST, d'où aussi le partenariat avec le tourniquet. Donc c'est un temps très long, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais d'échange et d'accompagnement, qui peut aboutir aussi à une mise en place de substitution. Mais c'est aussi s'adresser à toutes les personnes qui sont en mésusage de substitution, puisqu'on sait que beaucoup s'injectent le Subutex, donc qui sont toujours dans le soin, dans une démarche de soin qui est différente. Mais on sait que l'injection de Subutex, ça reste une prise de traitement qui est particulière, avec des difficultés et des risques associés. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir aussi jouer un rôle de médiation avec les médecins qui les suivent dans les CSST. Puisqu'on a un partenariat, c'est aussi pouvoir l'exploiter de cette façon-là et dire à une personne, si elle est en mésusage de Subutex et qu'elle n'arrive pas à en parler à son médecin traitant ou au médecin qui la suit au CSST, on peut aussi nous jouer le rôle de médiateur et l'accompagner dans cette démarche pour qu'elle puisse aussi être mieux prise en charge.
Donc, Jonathan parlait du mésusage de Subutex. C'est vrai qu'il y a de la consommation de médicaments écrasés. Et on diffuse par exemple ce type de filtres, qui sont des filtres stériles à usage unique, qui permettent de préserver le capital veineux des personnes et réduisent les risques de se retrouver avec le syndrome de Popeye, donc des mains gonflées, œdèmes et autres. Et donc nous récupérons le matériel usagé. Ça permet aussi de sensibiliser les personnes à ne pas jeter des seringues sur la voie publique. Et on a un taux de récupération qui est plutôt satisfaisant. J'ai plus les chiffres sur la Vienne, mais sur la Charente, on a un taux de récupération qui est de l'ordre de 80 à 90%, donc ce qui est plutôt intéressant. Pour cette gestion des DASRI, donc des déchets de soins à risque infectieux, on travaille avec le CSST, le tourniquet, et donc avec l'hôpital. Donc un travail de médiation auprès des autorités locales, juridiques, et donc l'organisation de rencontres avec les professionnels du champ médico-social. C'est ce qui se fait à travers le collectif de réduction des risques, comme évoqué précédemment. Bon, pour le moment, sur la Vienne, je dirais qu'on n'a pas eu trop de travail de médiation.
Ça s'est fait avec la police dans un premier temps, pour pouvoir mettre en place les permanences qui puissent se faire dans de bonnes conditions. Puisque avoir la présence des présences policières sur des permanences avec des consommateurs de produits, c'est un peu difficile. Donc okay. ça limite un petit peu l'accès au matériel. Ça a été un travail un peu compliqué, mais qui s'est fait.
Il a fallu expliquer précisément quelles étaient nos missions et bien expliquer qu'on n'est pas dans la promotion de la consommation de produits, mais bien dans la réduction des risques liés à cette consommation. Bon, je dirais que pour le moment, on a été entendu. On est peut-être un peu ambitieux, mais on envisage même de proposer des temps de formation à l'ensemble des forces de l'ordre pour justement qu'il y ait une réelle compréhension de nos missions et une compréhension comme quoi on travaille, je dirais, en parallèle sur des champs différents, mais d'une certaine façon qui peut-être pas qui convergent, mais qui vont dans le même sens en tout cas, en termes de santé publique. Et enfin, la mission dite facultative, qui est la mission numéro 7, liée à l'alerte et la veille sanitaire, autour de nouveaux profils de consommateurs, de nouveaux produits consommés, et aussi autour de la possibilité de créer des outils de réduction des risques qui manqueraient dans notre panel. Donc ça se fait à travers bien évidemment les rapports d'activité qui remontent à la DAS, au DRAS et à la Direction Générale de la Santé, mais également nos activités permettent d'alimenter l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Et à partir de ces données-là, ça nous permet d'identifier des nouveaux bassins de consommation et voir quels dispositifs on peut mettre en place pour répondre aux besoins des personnes. Alors, justement, sur les dispositifs que l'on peut mettre en place pour répondre aux besoins des personnes, au niveau de aide, on souhaite se servir des CARUD comme étant un lieu d'expérimentation. D'expérimentation autour de choses qui, pour le moment, nous semblent pertinentes à mettre en place. Donc, par exemple, il y a un travail qui est fait actuellement sur la région sud-ouest de Aide. Donc, la région sud-ouest comprend les trois régions administratives, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. L'idée étant de déposer à l'Agence nationale de recherche contre le sida, la NRS, un projet de dépistage hépatite C communautaire dans les CARUD. Concrètement, il s'agirait de proposer aux consommateurs de produits psychoactifs qui fréquentent ce dispositif, leur proposer un dépistage hépatite C, mais qui serait un dépistage par voie capillaire, par goutte de sang, au bout du doigt, ce qui évite l'acte invasif de la seringue. On a pas mal de consommateurs de produits qui ont un capital veineux qui est en piteux état. Parfois, pour ne pas dire souvent, ils rencontrent des difficultés dans les centres de dépistage anonymes et gratuits parce que quand un injecteur qui a un passif d'une vingtaine d'années connaît parfaitement les lieux, les points où il peut s'injecter un produit. Et c'est vrai que dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, souvent, enfin dans les centres de dépistage de façon générale, l'auto-prélèvement n'est pas encore rentré dans les mœurs. Et donc, on essaie de travailler sur ça, de façon à ce que les personnes puissent s'auto-prélever, sachant qu'ils connaissent leur capital veineux et sachent quels sont les lieux où se prélever du sang. Et donc, justement, pour éviter ce frein lié à cet acte invasif, on envisage de proposer un dépistage par goutte de sang au bout du doigt, qui a une fiabilité équivalente à un dépistage classique. Et dépistage communautaire, puisque l'idée, ce serait que les personnes qui viennent se faire dépister puissent être accompagnées par des pairs, accompagnées par des personnes qui sont en bithérapie par rapport à une hépatite C, accompagnées par des personnes qui sont... consommatrices de produits et donc qui pourraient leur faire partager leur expérience liée à moi, mon hépatite C, ça signifie ça au quotidien, mon traitement interféron, pegylé, ribavirine, ça signifie ça au quotidien. Et donc c'est cet échange qui permet de rassurer certaines personnes, de leur faire comprendre tout le dispositif et le contexte qu'il y a à mettre en place pour pouvoir... avoir bénéficié d'une bithérapie qui sera efficace, etc. etc. On souhaite également, alors là c'est sur du long terme, travailler en milieu carcéral pour, à terme, pouvoir proposer du matériel de réduction des risques en prison. Aujourd'hui, en France, il est interdit de pouvoir bénéficier de ce type de kit quand on est détenu, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, Espagne, Belgique et d'autres, j'en oublie. Et donc on souhaiterait justement porter ce plaidoyer, et on porte ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire comprendre qu'il y a de la consommation, et c'est su, c'est parfaitement connu par les professionnels qui travaillent en milieu carcéral. Il y a la consommation de produits par inhalation et par injection en milieu carcéral. On souhaite pour cela qu'il y ait un accès au matériel stérile afin de réduire les risques de contamination VIH et hépatite. Enfin, les CARUD dans Aide, ça signifie insuffler une politique de santé communautaire. On part de l'idée, et ça vaut donc au niveau de nos différents combats VIH, hépatite, que les personnes séropositives ont une expertise liée à leur pathologie. Quelqu'un de séropositif au VIH sait ce que c'est que vivre au quotidien avec, avec son VIH. C'est précisément quels sont les liens qu'il y a entre soigné et soignant, connaît les discriminations vécues au quotidien, etc., etc. Et donc c'est à partir de... On travaille sur cette expertise pour que cette expertise soit entendue par, par d'autres personnes concernées par le VIH et afin que les personnes soient non pas dans une posture de service par rapport à aide, mais se mobilisent dans, le, dans la lutte contre le VIH et les hépatites et puissent partager leur expérience. Donc pour un consommateur de produits, partager son expérience liée aux effets psychoactifs des produits, mais liée à sa pratique d'injection et travaille auprès de ses pairs. Voilà en quelques mots ce que sont ces CARUD sur le territoire et ce qu'est le CARUD sur le département de la Vienne.
Que le patient soit expert de sa maladie, Aragoste est tout à fait d'accord avec ça, c'est un de nos leitmotifs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est ici ensemble ce soir. Je vous remercie, messieurs, ces deux exposés extrêmement précis, chiffrés, fournis et originaux. Et donc, on va passer à des questions dans la salle. On va grouper un petit peu parce qu'il est 22h. On va essayer de